Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va s'éloigner des personnages féminins et s'intéresser cette fois à une dramaturge, Sarah Kane, qui n'est pas très très connue en France, mais qui a eu en Angleterre, en Grande-Bretagne, un succès phénoménal sur une période très très courte. Elle est l'auteur de 5 pièces écrites en 4 ans et elle s'est suicidée à l'âge de 28 ans en 1999. Alors, son théâtre appartient au mouvement In Your Face, qu'on traduit en français par théâtre coup de poing, mais mot à mot ce serait dans ta gueule. C'est un théâtre qui est très explicite et j'ai hésité à demander à Françoise d'interdire la conférence au moins de 16 ou 18 ans, comme le sont parfois certaines représentations. Ce soir, on va parler de choses assez violentes. Et donc, la crise de la représentation, on va voir que le théâtre de Kane, c'est un théâtre qui est construit finalement autour de la déconstruction. On va déconstruire le décor, on va déconstruire le personnage et on va finalement faire voler en éclats les conventions du genre théâtral. Alors, je vais commencer par quelques repères biographiques avant de vous donner un panorama un peu de ces 5 pièces. Et puis, pour terminer, je m'attarderai sur Anéanti, qui est sa première pièce. Je vous en proposerai une lecture un peu plus fouillée. Alors, Sarah Kane, que les journalistes anglais avaient surnommé l'enfant terrible, en français dans le texte, est née donc le 3 février 71 et est morte le 20 février 1999. Elle a étudié le théâtre à l'université de Bristol, puis à l'université de Birmingham. Alors, son rapport au théâtre, son rapport à l'université n'a pas été génialissime. Elle a eu des relations assez conflictuelles avec certains de ses professeurs, notamment un jour qui, après lui avoir rendu un devoir, en fait, lui a dit « mais ce que vous écrivez, c'est de la pornographie ». Sarah Kane a quitté le cours, elle est revenue et a donné au prof, elle lui a balancé des revues porno sur son bureau en disant « ça, c'est du porno ». Donc quelqu'un quand même qui avait apparemment un caractère assez appuyé. Et c'est notamment à Birmingham qu'elle commencera à écrire Anéanti en 93, qui sera joué à Londres en janvier 95. Lors de cette première, lorsque sa première pièce est jouée au Royal Court of Stairs de Londres, donc en janvier 95, les critiques vont vraiment la démonter complètement. On y voit un peu, les critiques disent, bon, c'est un peu l'œuvre d'une ado attardée qui a des pulsions morbides. Et donc, vraiment, on va dire des choses vraiment très négatives sur elle. Je vous ai donné quelques exemples sur la photocopie. Donc, on peut lire « Pièce d'une jeune femme sur un viol, l'auteur se cache. Box-office du tonnerre pour la pièce la plus abjecte jamais vue. Finalement, j'ai été poussé dans les bras du brave provincial écœuré, car totalement et absolument écœuré, je l'ai été par une pièce qui semble ne fixer aucune limite à l'indécence et n'a cependant aucun message à transmettre en guise d'excuse. » Donc, au départ, les critiques, ils voient vraiment, ne s'intéressent qu'à la dimension violente de ces pièces. Hein, pour eux, c'est juste du viol, de l'anthropophagie, des personnages complètement névrosés. Ils ne voient pas autre chose que ça dans les pièces. Pourtant, on va avoir des gens qui vont prendre sa défense, notamment Edward Bond, qui est l'un des plus grands dramaturges contemporains britanniques, qui va la défendre en disant « mais on n'a jamais rien vu d'aussi bon depuis les années 70 ». Et pour lui, il y a vraiment l'idée que Sarah Kane, c'était la nouvelle génération qui prenait enfin la relève. Et puis on a un autre dramaturge, David Craig, qui a dit « Anéanti durera ». C'est vraiment une très bonne pièce. Et une fois que l'hystérie sera retombée, il lui restera à être lu et représenté pendant des années. Donc, on a quand même cette tension entre ces deux approches. Après Anéanti, elle écrit L'amour de Phèdre. Alors, L'amour de Phèdre, c'est une commande où elle va réécrire le Phèdre, alors pas celui de Racine, mais celui de Sénèque. Et elle dira, quand elle va réécrire Phèdre, qu'elle n'a lu la pièce de Sénèque qu'une seule fois. Pour ne pas être trop influencée par la pièce originelle, elle va, d'après ce qu'elle en lit, réécrire la pièce, et je vous en parlerai un peu plus en détail après. Vous verrez qu'il y a quand même de grosses différences. Elle écrit ensuite sa troisième pièce, Purifiée, qui est sans doute la pièce la plus dure à voir de Kane, la plus violente, où là on a vraiment, ça se passe dans une institution, alors une université, un hôpital psychiatrique, un camp de concentration, c'est pas vraiment, mais on a vraiment des expériences en tout genre, on va avoir des grèves de parties génitales, des viols, du meurtre, on a un peu de tout. Et puis, quand elle va revenir avec sa quatrième pièce, qui s'appelle Manque, qui est créée 3 mois seulement après la première représentation de Purifié, elle revient complètement différente. Alors, elle va faire jouer sa pièce sous un pseudonyme, puisqu'elle sait à ce moment-là que la critique ne lui est pas encore très très favorable. Donc, elle sait jouer ça avec un pseudonyme. Et là, par contre, les critiques vont devenir très bonnes. Mais en même temps, c'est un théâtre complètement différent. On passe de ce théâtre violent à un théâtre qui va vers une forme de décaractérisation du personnage. On n'a plus vraiment d'intrigue, on n'a plus donc vraiment de personnages, on n'a que des voix. Et elle poursuit ça avec 448 Psychose, sa dernière pièce, qui sera jouée en 99 après sa mort. Et on pense quand même, quand on lit 448, que quand elle a écrit cette pièce, qui est un peu finalement son testament littéraire, elle l'a écrite en sachant que la pièce serait jouée de manière post-mortem. Alors, le frère de Cain, qui est donc maintenant qui est son ayant droit, en gros, lui a du mal, enfin, refuse un peu cette idée de testament littéraire, puisqu'on y voit vraiment tout le mal-être de l'auteur, et on y voit, on sent la fin vraiment, vraiment proche. Sarah Cain était, a priori, schizophrène, elle a été régulièrement internée, et vraiment, ses voix pathologiques sont devenues finalement ses voix dramatiques. Et donc on voit que les deux dernières pièces, c'est vraiment une cacophonie de voix plus qu'une œuvre structurée comme elle a pu le faire auparavant. Elle a également été metteur en scène et comédienne. Elle a aussi un peu joué. Son théâtre est influencé alors par le théâtre classique, par Shakespeare évidemment. Anéanti est une réécriture très partielle, elle reprend certains motifs du Roi Lear notamment, mais elle est également influencée par les 3B, alors c'est pas les nôtres, c'est pas Brel, Barbara, Brassens, mais c'est plutôt Beckett, Bond et Büchner, et puis qui sont pardon, ces trois auteurs auxquels elle se réfère régulièrement, et puis elle emprunte notamment des vers à T.S. Eliot dans Manque par exemple. On a des références littéraires qui traversent son œuvre, et elle dira dans 448 Psychose qu'elle est la dernière d'une longue lignée de kleptomanes littéraires. Voilà comment elle justifie ses emprunts. Pardon, la dernière d'une longue lignée de kleptomanes littéraires, je trouve une très belle expression. Donc voilà pour à peu près sa vie. Vous ne trouverez normalement jamais de biographie de Cain. On trouve des petites biographies sur Internet, mais il n'y aura jamais de vrai travail biographique sur elle. Elle l'a expressément refusé. Elle ne voulait pas qu'après sa mort, les journalistes notamment, qu'elle portait vraiment en horreur, s'emparent de sa vie pour écrire dessus. Son père était aussi journaliste, donc il y a peut-être un lien psychanalytique à développer là-dessus. Alors, je vais vous présenter ces cinq pièces. Donc, je vais commencer par une citation, c'est la numéro 2 sur votre fiche. Et Cain disait « Je déteste l'idée que le théâtre ne soit que le passe-temps d'une soirée. Il devrait être une exigence émotionnelle et intellectuelle. J'adore le football. Le degré d'analyse qu'on peut entendre sur les gradins est étonnant. Si les gens faisaient ça au théâtre, mais non. Ils s'attendent à être confortablement installés, à ne pas participer. S'il y a une place pour les comédies musicales, l'opéra ou n'importe quoi, alors il devrait y en avoir pour des pièces nouvelles de qualité, sans égard pour le box-office. » Alors, les spectateurs qui vont voir une pièce de Cain s'attendent à être confortablement installés et à ne pas participer, comme elle le dit elle-même, à mon avis, ils seront au choix troublés, déboussolés, outrés, choqués, dégoûtés. Hein, la liste est non exhaustive. Mais en tout cas, on ne peut pas être indifférent à une représentation de Cain. On voit régulièrement des gens qui quittent la salle dans les pièces de Cain. Mais Kane disait que ça faisait partie de l'expérience du théâtre. Pour elle, elle n'a jamais voulu écrire pour le cinéma, pour la télévision. Elle a écrit un court-métrage, Skin, qui dure une petite dizaine de minutes, qui a été diffusé à la télé un soir à minuit, ce qui l'a profondément outrée. Mais quand on voit le téléfilm, on imagine mal ça grand public à 20h50. Mais pour elle, elle disait, bon, finalement, quand on écrit pour la télé, pour le cinéma, si vous êtes chez vous, vous pouvez, si vous êtes choqué par quelque chose, vous zappez, vous éteignez la télé, vous changez de pièce, ça n'aura aucune influence sur le programme que vous êtes en train de regarder. Or, au théâtre, le fait de se lever, de quitter une salle, c'est presque un acte politique pour elle, puisque vous allez troubler à la fois le public, mais également vous allez troubler les acteurs sur scène. Et donc, d'un coup, vous ne pouvez pas être passif comme devant la télé, vous êtes forcément actif, et c'est vous qui décidez de dire « je me lève, mais je vais troubler la représentation ». Donc, Anéanti, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, c'est une double tragédie, à la fois une tragédie humaine, qui est celle de la guerre qui sévit autour d'une chambre d'hôtel de Leeds, où se retrouvent Kate et Ian, un couple illégitime, et qui vivent aussi des drames, alors le drame de leur couple, mais aussi chacun à leur manière, des drames plus personnels. Et puis à un moment, on va voir la guerre qui va vraiment rentrer dans la chambre d'hôtel. L'hôtel va exploser et on va avoir l'entrée du soldat en scène, donc qui est vraiment la caractérisation de la guerre, qui va venir troubler les rapports de force entre les personnages. Et donc tout est axé dans la deuxième partie sur les rapports de force entre Kate, Ian et ce soldat. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Dans L'amour de Phèdre, donc qui est une relecture très personnelle du Phèdre de Sénèque, on a toute une violence qui va s'exprimer notamment à travers la sexualité. On va assister notamment à une scène de fellation de Phèdre sur son beau-fils Hippolyte, qui va se terminer par une éjaculation buccale, qui est un thème récurrent de la pièce. On a deux scènes qui se suivent en parallèle, donc celle-ci. Et puis on sent que Hippolyte, c'est un personnage qui est vraiment en crise et qui a un rapport très particulier à la sexualité. On le voit notamment manger d'hamburger, et puis juste après il se masturbe dans une chaussette. Puis alors il renifle un peu les mouchoirs des chaussettes. Enfin, c'est vraiment c'est Hippolyte, voilà. L'inceste est consommé avec Kane, hein, elle pour elle, ça parle de ça, donc elle va jusqu'au bout de sa démarche. Et puis, on va faire venir un médecin, parce qu'on sent qu'Hippolyte, quand même, il n'est pas très très bien. Et puis après un prêtre, et puis au moment où il se retrouve dans une scène de confession, il va se retrouver en train de se faire prodiguer une fellation par le prêtre, et ça va se terminer également par une éjaculation buccale. Et ce motif-là, c'est pas... chez Kane, les gens voient toujours ce côté, c'est gratuit finalement, je mets du sexe pour mettre du sexe, je mets de la violence pour mettre de la violence, alors que non, il faut vraiment chercher le symbole qu'il y a là-dedans. Et on sent que finalement Hippolyte, c'est quelqu'un qui on sent que c'est un personnage qui est malsain et qui a besoin de contaminer entre guillemets ses victimes, et donc il déverse littéralement toute sa perversité en fait, hein. Donc c'est vraiment le symbole. Et puis à la fin de la scène, il est émasculé, il meurt, et il faut savoir que chez les personnages de Kane, on meurt parfois deux fois, une première fois physiquement et une deuxième fois moralement. Donc on a des personnages qui meurent et qui continuent de parler. On a l'impression qu'il y a d'abord une mort physique, et puis après, une fois qu'il y a une espèce de rédemption, le personnage peut vraiment mourir. Et donc Hippolyte est en train de se faire dévorer par des vautours, et il dit, la dernière phrase du texte, c'est « si seulement il pouvait y avoir plus de moments comme celui-là ». Voilà la rédemption d'Hippolyte. Kane va continuer, elle va pousser encore plus loin sa violence avec Purifié, qui est pour moi la pièce la plus difficile à lire déjà. Alors je ne l'ai jamais vu représenter, mais c'est la pièce, la première fois que je l'ai lu, je refermais le livre régulièrement, un peu comme pour Hélène quand on est petit, qu'on ferme parce qu'on a peur des monstres. C'est un peu la même chose, tellement on assiste à une accumulation d'horreurs, et finalement c'est un peu, c'est pas un train pour en cacher un autre, mais une horreur pour en cacher une autre. Et donc dans cette pièce là c'est vraiment donc Tinker, alors le terme en anglais veut dire bricoleur, qui est vraiment un véritable docteur Mengele, qui va manipuler moralement et physiquement ses patients dans une institution donc qui n'est pas précise vraiment. On ne sait pas si c'est une université désaffectée, si c'est un camp de concentration, un hôpital psychiatrique. Mais donc il va tester petit à petit ses personnages. Alors notamment, il va tester l'amour de Rod et de Karl pour savoir si l'un est prêt à mourir pour l'autre. Il va prendre l'un des deux, enfin, le couple d'amoureux, et il va prendre une espèce de tige en métal qu'il va enfoncer dans l'anus d'un des deux, qui fait remonter quasiment sur tout le corps. Voilà comment on teste l'amour dans cette pièce-là. Il va y avoir aussi une greffe de partie génitale d'un personnage sur l'autre. Et ce symbole, enfin, cette greffe-là, elle est intéressante parce que on voit quand même que les voix des personnages de Kane commencent à se fragmenter. Autant dans les deux premières pièces, chaque personnage est un peu, cloisonné entre guillemets. Là, on a des répliques qui vont être doublées. Les personnages vont dire la même chose ou vont commencer une phrase, ça va être fini par une autre. Et donc la greffe, c'est vraiment la concrétisation physique de cet amalgame de voix en fait. Dans cette pièce-là, on sent que Kane arrive au bout de la violence physique et on a des didascalies un peu particulières, par exemple quelque chose comme un rat traverse la scène avec une main dans la gueule. Donc la grande question, c'est si vous êtes metteur en scène, comment vous mettez ça en scène. Ça paraît un peu compliqué, mais Kane disait toujours, en fait, tout ce que l'esprit est capable d'imaginer, on est capable de le représenter. Donc, il fallait trouver, en fait, le moyen de contourner ça. Et elle disait que elle veut pas que ces didascalies soient prises au pied de la lettre. Elle se moquait, finalement, qu'on voit un rat qui traverse la scène, mais ce qui l'intéressait, c'était l'image qu'on pouvait en retirer. Et donc, on pouvait contourner ces didascalies. Le tout, c'était de garder la signification, la violence qu'il pouvait y avoir. Et elle avait été notamment assez, pas choquée, mais déçue d'une mise en scène de l'amour de Phèdre, où le metteur en scène avait décidé d'occulter complètement la dimension sexuelle de la pièce. Bon, dans une scène où vous avez deux éjaculations buccales, si vous contournez, vous enlevez quand même déjà un sacré motif. Et donc, elle disait que finalement, elle ne reconnaissait plus du tout sa pièce. Et donc, quand un metteur en scène s'intéresse à Kane, le but, ce n'est pas de contourner la violence, mais au contraire, de l'affronter et de la représenter. Et puis, bon, finalement, au bout de trois pièces, elle en avait un peu marre quand même de la critique, de voir que bon, on est toujours en train de dire c'est violent, physiquement c'est dur. Donc, elle revient avec une pièce où vous n'avez plus de personnages, vous n'avez plus que quatre personnages, qui sont A, B, C et M. Donc on a encore quand même des indications. Alors, on ne sait pas exactement qui sont ces personnages, mais on arrive à deviner, en fait, que B, c'est pour boy, donc un garçon. C, c'est child, c'est une jeune fille qui est en proie quand même de nombreux troubles psychologiques, et c'est sans doute, à mon avis, la voix qui va devenir la voix principale de 448 Psychose ensuite. On a M, qui est mother, la mère, donc c'est une femme d'âge mûr, qui aimerait être, qui a ce désir de maternité. Et puis on a ce A qui est un personnage emblématique, plutôt énigmatique, mais on ne sait pas exactement. Alors elle disait que ce A, ça pouvait être l'ange ou l'anus. Pour elle, c'était les deux aspects du personnage. Et ce personnage-là, bon, passe sa pièce à raconter un peu des histoires un peu salaces. Mais c'est une pièce que vous pouvez prendre un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que vous pouvez la lire du début à la fin, de la fin au début, où vous pouvez faire une photocopie du texte, couper chaque lettre et puis faire des monologues par personnage. Vous pouvez croiser les dialogues. Finalement, il y a des tas de choses à comprendre. Alors parfois, on sent qu'il y a du dialogue et que ça se répond vraiment entre les personnages, mais parfois, bon, on passe d'une phrase à une autre. Et pour Kane, c'est pas parce que la mère à un moment dit, je sais plus, elle parle de ses règles, ou au contraire de sa ménopause, mais Kane disait, c'est pas forcément une femme qui doit jouer ce rôle-là. Un homme peut très bien le jouer aussi. Et pour elle, on est vraiment dans un début de décaractérisation de ces personnages. Et on sent quand même que, quatre voix, est-ce que c'est quatre personnages ou est-ce que c'est en fait quatre voix d'un même personnage? Bon, bah, on sent quand même que la schizophrénie est quand même en train de l'atteindre dans son écriture. Mais c'est aussi, hein, paradoxalement, ce qui sans doute lui a permis de tenir aussi longtemps, entre guillemets, parce qu'elle est morte à 28 ans, mais qui est peut-être l'a sauvée. Et puis enfin, quand elle écrit 448 psychoses, son dernier texte, alors là, vous n'avez plus de personnages. Alors, je vous ai mis une... Bon, c'est petit, mais c'est juste pour que vous voyez la mise en page de la pièce, en fait. Où, évidemment, on pense aussi un peu au poème de Mallarmé, où vraiment, on occupe un peu toute la place. Et alors, la question, c'est combien y a-t-il de personnages dans cette pièce? Alors, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y en a trois? À mon sens, il y en a trois, puisqu'elle donne à un moment une espèce de trinité où elle dit victime, bourreau et spectateur. Et une fois que vous avez cette trinité-là, vous pouvez comprendre toutes les relations qui sont en tension dans le théâtre de Caine. Et je pense que dans cette pièce-là, vous avez cette voix narrative qui assume qu'elle est complètement folle et qu'elle va mourir. Hein. Elle le dit à un moment, je me suis résigné à mourir cette année. Donc on sent quand même l'autobiographie derrière. Et puis on sent quand même que cette voix va s'opposer au corps médical, à l'institution psychiatrique qui est porteuse de normes et de valeurs. Mais en même temps, Caine va nous dire que le psy va donner des règles, hein, qu'il a lui-même appris dans ses manuels de psychologie, mais que le psy, il est perverti par la société aussi. Donc finalement, tout le monde est un peu perverti, donc il n'y a plus vraiment d'opposition possible. Et le troisième personnage, cette troisième voix, c'est sans doute le spectateur, hein, qui est au dehors de ces échanges. Mais comme vous n'avez pas de découpage dans la pièce, c'est au metteur en scène de vraiment choisir qui dit quoi. Chaque personnage est à même de glisser finalement d'un rôle à l'autre. C'est-à-dire que le bourreau peut devenir la victime, qui va ensuite devenir le spectateur pour redevenir victime, bourreau, etc. Donc, pas du tout de voix définie. En France, par exemple, quand la pièce a été montée, il n'y avait qu'un personnage sur scène qui était interprété par Isabelle Huppert. C'est un choix également possible. Qui n'était pas représenté, enfin, c'était pas un acteur, voilà. Voilà, c'était pas, il n'y a pas une confrontation physique, en tout cas, des deux personnages. Voilà donc quand elle écrit, et elle le dit d'ailleurs dans un moment dans Psychose 448, elle dit comment puis-je revenir à la forme maintenant que ma pensée formelle a disparu. Donc elle s'interroge, hein, aussi sur son théâtre et sur sa santé mentale. Et alors 4h48, pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce qu'elle pensait qu'à 4h48 du matin, c'était le moment où tout était clair pour elle. C'est un peu le moment de lucidité, le moment où ses voix la laissaient un peu tranquille avant de revenir de plus belle. Et donc, quand on regarde ces cinq pièces, on voit clairement une évolution de la forme qui va vers quelque chose de très, enfin, qui part d'une mise en scène très naturaliste vers quelque chose de très poétique où finalement le texte prend complètement le dessus sur le visuel. Quand vous lisez Manque ou Psychose 448, on peut imaginer qu'il y a un côté très radiophonique, hein, ça pourrait être joué, enfin, simplement des voix qu'on entend et ça marcherait quand même. Et donc, pour en revenir donc à cette évolution qui va vers donc quelque chose de très abstrait, finalement on part du très concret au très abstrait, la question ça va être de comment on va mettre en scène le corps. Puisque dans les premières pièces, on lui fait subir tout ce qu'on peut au corps, hein, le viol, la mutilation, l'anthropophagie, hein, je vous en parlerai dans Anéanti. Mais à la fin, on sent que le corps, elle essaye quand même, hein, de lui redonner une place, mais à travers le texte. Elle s'interroge beaucoup sur le corps. À un moment, elle en est arrivée à un point où elle va dissocier le corps et l'âme. Elle dit voici mon corps et voici mon âme. Donc, hein, comme si il y avait vraiment une dualité qui était irréconciliable à la fin de sa vie. Elle le dit, hein, de toute façon, le corps et l'âme ne peuvent pas être mariés. Elle nous le dit ça dans Psychose 448. Le corps, c'est aussi le corps sociétal sur lequel Kane écrit. Elle essaie de redéfinir l'homme comme entité sociale. Et je pense que vraiment la défaite et la ruine physique et morale de l'homme sont à mettre en parallèle de la déconstruction de ces pièces. On a vraiment, je crois, un lien entre les deux. Et donc, ce corps sociétal, elle le symbolise à travers des personnages un peu emblématiques, des personnages de pouvoir notamment. Donc, dans Anéanti, c'est le soldat qui représente le corps militaire. Dans L'amour de Phèdre, c'est la famille royale, l'État. Et puis enfin, c'est le corps médical dans Purifié. Et puis le corps psychiatrique dans 448. Et Kane, donc, elle va déconstruire son texte comme elle démembre les personnages. Et on a tout un système, finalement, de collage et d'assemblage, alors physique et textuel. Ce système-là va donc amener vers la disparition physique, vraiment, du personnage. Et Agathe Torti, une spécialiste de théâtre contemporain, dit « La disparition physique du personnage, pour laisser place à des voix sinon interchangeables, du moins superposables, puis la fusion de ces voix se double d'un compactage du texte dramatique poussé jusqu'à l'émiettement. Ce compactage se donne à voir dans la mise en page et dans la forme typographique, donc, d'une certaine manière ou d'une autre, dans sa représentation. » J'ai oublié de vous dire, dans 448 et dans Manque, il n'y a aucune indication scénique. Autant il y en avait énormément dans les trois premières pièces, autant dans les deux dernières, il n'y a absolument plus rien, plus aucune attention. Donc chacun est libre d'interpréter le texte. Donc voilà pour ces cinq pièces, un peu pour vous retracer un peu le squelette schème, en fait, de son théâtre. Je vais juste vous donner une dernière citation de 448 que je trouve très jolie. On a l'idée du corps parchemin, en fait, avec Kane. C'est comme du papier, hein, qu'on va déchirer, qu'on va froisser. Et elle dit à un moment, une ligne en pointillé sur la nuque, coupée ici. Et je trouve ça très joli, hein, le lien entre vraiment le corps comme lieu vraiment de l'écriture. Alors, pour en venir à Anéanti, on a dans cette pièce donc deux personnages, Ian et Kate. Ian est journaliste, il est rongé par un cancer. Kate est une jeune fille retardée. Ils se retrouvent dans cette chambre d'hôtel et on imagine pourquoi ils sont là. Et quand vous voyez le début de la pièce, en fait, c'est vraiment la chambre d'hôtel glamour, c'est un peu Sofitel de New York, quoi, pour le coup. Et il se retrouve dans cette chambre d'hôtel. Et puis, en plein milieu de la pièce, vous allez avoir ce soldat qui va faire irruption dans la chambre d'hôtel, puisque donc tout vole en éclats. Et le soldat arrive et va complètement modifier les rapports de force entre chaque personnage. Quand elle a écrit Anéanti, Kane, elle commence l'écriture en 93, alors qu'elle est encore étudiante à Birmingham. Et puis, elle a en tête l'idée, pour l'instant, uniquement de cet homme et de cette femme dans une chambre d'hôtel de Leeds. Bon, elle sait pas exactement ce qu'elle va en faire, mais c'est son idée pour l'instant. Et puis, un soir, elle regarde le journal télévisé et elle voit les atrocités en Bosnie. Et à ce moment-là, elle se dit, donc, c'est la citation numéro 5, je me suis dit, c'est absolument horrible, et moi je suis là à écrire cette pièce ridicule sur deux personnages dans une chambre. Ça rime à quoi de continuer? Donc, c'est sur ça qu'il fallait que j'écrive, mais quand même, cette histoire entre l'homme et la femme m'attire toujours. Alors je me suis demandé quel pourrait bien être le lien entre un viol banal dans une chambre d'hôtel de Leeds et ce qui se passe en Bosnie. Et brusquement, ça fait tilt, et je me suis dit, mais bien sûr, c'est évident, le premier est la graine et l'autre est l'arbre. Donc, une partie de la critique, quand Anéanti a été créée, c'est d'interroger sur quel est le lien entre les deux parties de la pièce. Finalement. Pourquoi on passe de cette situation d'un couple à cette situation de guerre. On ne voyait pas forcément pourquoi l'intrusion. Et donc, en fait, il y a des liens, et on voit que toute la violence, hein, qui est à l'origine, à mon avis, de la crise de la pièce, est un vecteur qui va de l'extérieur vers l'intérieur. On part du plus général pour aller vers le particulier. On a la guerre à l'extérieur, on a en parallèle comme une espèce de guerre hein, qui se joue entre, enfin une lutte en tout cas entre Ian et Kate, et puis après on va avoir une guerre des personnages entre eux, mais après une guerre des personnages contre eux-mêmes. On verra, hein, l'autodestruction est quand même assez forte. La guerre donc qui fait rage à l'extérieur de la pièce n'est jamais montrée. Elle est renvoyée hors champ dans la pièce. Hein. C'est ce qui lui donne encore plus de force lorsque la chambre explose, puisqu'on ne s'y attend pas. On a l'impression que la chambre d'hôtel est isolée du reste du monde. Lorsque le rideau s'ouvre, la chambre nous paraît un lieu plutôt neutre, intime, cloisonné donc du monde extérieur. On nous dit que la chambre d'hôtel se situe à Leeds, mais finalement elle pourrait être un peu n'importe où dans le monde, c'était pas très très important. Et Kane a fait en sorte de ne pas vouloir faire apparaître le contexte historique oui, de cette guerre. Il n'y a aucune référence au conflit en Bosnie. Elle nous dit, c'est la citation numéro 6, j'ai toujours essayé d'éviter toute référence à une situation réelle. Dans Anéanti, donc, je ne voulais évidemment pas mentionner la Bosnie, parce qu'ensuite, on se retrouve dans un débat avec les gens qui étaient vraiment et ont vécu cette situation. J'ai toujours pensé que si l'on pouvait éviter les épisodes de l'histoire, mais que l'on pouvait écrire dessus, alors ça me va. Ce que je ne souhaiterais pas, c'est blesser quelqu'un en faisant référence à une situation spécifique. Alors, dans la première version de la pièce, écrite en 93, le soldat s'appelle Vladek. Et donc la consonance nous renvoie évidemment aux Balkans. Et donc, dans la version définitive, le soldat s'appellera Soldat. Voilà, hein, c'est vraiment très générique pour éviter en fait toute référence à la guerre. Cette même décaractérisation hein, qu'elle amorce entre Vladek et Soldat, c'est ce qu'elle fait en le poussant à l'extrême ensuite dans Manque et dans Psychose 448. Alors, même si la chambre est isolée du reste du monde extérieur en tout cas, la violence va apparaître dans le texte. Et c'est là qu'on va trouver des éléments de violence, notamment par les faits divers que Ian va relater lorsqu'il est au téléphone. Il nous dit, c'est la citation numéro 7, un tueur en Syrie a égorgé la touriste britannique Samantha Scrafe dans un rituel meurtrier dément, virgule, c'est ce que la police a révélé hier, point à la ligne. La pétillante jeune fille de 19 ans, originaire de Leeds, se trouvait parmi les 7 victimes découvertes enfouies dans des tombes triangulaires, toutes identiques au cœur d'une forêt isolée de Nouvelle-Zélande, point à la ligne. Donc on voit quand même que la violence, elle commence déjà à apparaître, et c'est parfois pire, c'est-à-dire que la violence, la représentation physique est une chose, la représentation mentale en est une autre. Elle peut être parfois encore plus dure à accepter que ce qu'on nous présente sur scène. Donc finalement, Kane s'inspire d'une réalité extralittéraire qu'elle recycle ici à des fins artistiques. Les faits divers, ils sont matérialisés par un paquet de journaux que Ian va jeter sur le lit en entrant. Et on a l'impression que cet accessoire est un peu une métonymie de la violence à l'extérieur. Et on va voir que d'autres éléments qui sont présents sur scène vont aussi inspirer la violence. Alors au départ, lorsque la pièce s'ouvre, bon, on a le lit, le seau à champagne ou le minibar qui vont symboliser d'abord la séduction que Ian va opérer pour conquérir Kate. Il va la conquérir physiquement par la violence ensuite. Mais l'alcool, c'est aussi une arme violente contre Ian lui-même, puisque il est atteint d'une cirrhose et il passe son temps à boire du gin. Donc on a une espèce de bombe à retardement qu'il est en train de s'infliger à lui-même. Des fleurs que l'on va avoir, un bouquet de fleurs qui, entre la scène 1 et la scène 2, va se retrouver déchiqueté, et c'est justement entre la scène 1 et la scène 2 que Kate va être violée par Ian. Donc le viol n'est pas présenté physiquement au début de la pièce, il est simplement on le déduit, et donc au début de la pièce tout paraît un peu idyllique, et Kane en fait pour parler de ce décor très naturaliste, donc ce décor à trois murs, Graham Sanders, qui est donc un critique, disait « L'intérieur de l'hôtel est la copie conforme du quatrième mur hérité d'Ibsen et de Tchekhov, ce que Kane appelait, elle, le gentil petit décor en forme de boîte. » Et ce gentil petit décor en forme de boîte, qui convient pas trop à Kane, elle va justement le faire exploser. Et c'est vraiment l'explosion de la bombe qui va être un peu le paroxysme en fait de la violence et vraiment marquer le début d'une vraie crise. Dit Kane, c'est la citation numéro 8. Je pense que ce qui se passe dans une guerre, c'est que brusquement, violemment, sans aucun avertissement quelconque, la vie des gens est totalement mise en pièces. Alors je me suis littéralement contenté de choisir un moment de l'action en me disant là, je vais poser une bombe et je vais faire sauter tout ce foutu bordel. Donc Kane est assez direct hein, quand elle s'exprime. Et donc, la déflagration de cette bombe est doublée par l'entrée en scène du soldat. Et donc, on a vraiment un déplacement ici de la violence hein, qui était donc circonscrit aux quatre murs de la chambre, enfin aux trois murs en tout cas du décor. Mais une fois qu'on a fait exploser le décor, la violence peut rentrer et s'immiscer sur le plateau. Je pense également que le viol de Ian sur Kate est aussi à sa manière une bombe. Hein, c'est vraiment toute une série de déflagrations dans la pièce. On a une autre explosion, c'est l'éjaculation buccale qu'on retrouve encore dans Anéanti, puisque on assiste à une scène de fellation. Et Ian éjacule dans la bouche de Kate. On a l'impression qu'il fait une explosion qui vient souiller le corps de la jeune fille. La violence donc rentre donc sur scène, mais je crois qu'après elle continue à s'immiscer dans l'intimité du couple, puisque la violence va s'attaquer au corps même des personnages. On a le soldat qui va nous décrire en fait toute une série d'atrocités qui ont été commises sur la population dans un pays en guerre, et puis la violence finalement engendre la violence, et lorsqu'il parle de viol après il va violer Ian. Donc on a un retournement quoi. Ian Ian qui a violé se retrouve à son tour violé par le soldat, et donc vous vous retrouvez avec cette longue description où il vous raconte donc, toutes les atrocités par le menu, et puis au moment où ça s'arrête, vous dites un peu de répit, ben non, ça ne peut pas s'arrêter là, on passe de la violence verbale à la violence physique, et on assiste à la scène de viol. Cette fois-ci, la violence, elle s'est immiscée sur le plateau, donc on représente les choses telles qu'elles sont. On voit ici donc un retournement de la situation. Hein. Ian, qui au début contrôle les choses, là perd complètement ce contrôle-là. Et puis, on est vraiment dans l'autoflagellation. Alors, il s'autoflagelle déjà en buvant du gin alors qu'il a atteint une cirrhose. Mais ça continue avec ce viol qui est inévitable. Alors, la semaine dernière, j'en profite pour faire mon mea culpa. Françoise m'a dit que j'avais parlé de la justification du viol. Ce à quoi elle m'a dit, le viol est injustifiable, ce que je crois profondément d'un point de vue moral. Mais quand je parle de justification du viol au théâtre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce qui justifie que le personnage soit violé. C'est purement un mécanisme de construction diégétique et pas du tout une question morale. Hein. Évidemment, rien ne peut justifier le viol. Hein. J'espère que c'est clair et que je suis amendé de mon erreur de la semaine dernière. Agathe Torti toujours disait justement à propos de cette autoflagellation des personnages, elle disait « L'impossibilité de prendre en compte les conséquences de ses actes pour soi-même ou pour autrui est à l'origine de la vision très dévalorisée que Sarah Kane offre des relations interpersonnelles sur lesquelles se structure socialement le groupe humain. Les relations amoureuses et familiales en particulier se donnent à voir comme des réseaux de pulsions, parfois croisées, parfois en fugitive harmonie, souvent antagonistes, dont la caractéristique est d'être refermée sur soi. » Alors, je vais vous, pour illustrer cette citation, c'est juste que je vais être ouvert. Faites du bruit, ça me laisse le temps de chercher ma page. Une citation de Psychose 440, de Purifier, où En fait, donc Tinker, qui est donc ce médecin qui fait des tas d'expériences, va régulièrement dans un pipeau en fait, où il va, vous imaginez ce qu'il va y faire, en admirant une danseuse qui est nue. Et donc au départ il y a cette vitre entre eux. Et puis la vitre à un moment va être cassée, puisque littéralement il ne peut pas s'empêcher de dominer l'autre, et donc il faut qu'il passe à travers cette vitre pour pouvoir posséder la danseuse. Alors je ne retrouve pas la citation, mais alors de ça je vais pouvoir vous... la citation que j'ai donnée. Donc la danseuse dit: j'aime ta queue Tinker, j'aime ta queue en moi Tinker, baise-moi Tinker, plus fort, plus fort, plus fort, jouis en moi, je t'aime Tinker. Donc là vous avez quand même une tension entre un rapport physique qui semble quand même assez brutal, et puis cette dernière phrase qui vient complètement contredire tout ce qui est dit avant, ce je t'aime, finalement, c'est le syndrome de Stockholm quasiment, où elle éprouve de l'amour pour son bourreau. Voilà, donc c'est là toute la notion des relations interpersonnelles qui, on sent que ça vacille tout le temps et que c'est sur le point de glisser à chaque instant. Et donc la relation qui va animer le couple de Ian et Kate va reposer sur l'antagonisme de leur existence et de la perception qu'ils ont l'un de l'autre. Kate est sans doute retardée à tout point de vue. Alors elle se comporte un peu comme une vierge qui connaît rien des hommes. Ian, elle le considère comme un étranger, alors que même si on sait que bon, ils ont déjà été amants auparavant, et elle comprend pas toujours ses attitudes et ses gestes, et elle a pas vraiment compris pourquoi il l'amène dans la chambre d'hôtel. Et on a cette scène au début, il l'embrasse, elle s'écarte et s'essuie la bouche. Kate, ne mets pas la langue, j'aime pas ça. Ian, pardon. Donc là, c'est un peu l'enfant qui s'essuie la bouche, elle trouve ça un peu dégueulasse. Il essaie de l'embrasser avec la langue. Il s'excuse alors qu'à la fin de la scène, il va la violer. Donc vous voyez qu'on a vraiment une relation un peu particulière. Et donc, on sent que quand il essaye d'envahir la cavité buccale de Kate, on sent cette idée de conquête du corps de l'autre. On sent qu'il veut la conquérir physiquement. Donc cette conquête va passer par le viol. Ce viol, on l'attend sans l'attendre en fait, puisque on se dit d'un côté, bon, il va l'épargner, elle est fragile, elle est retardée, elle comprend pas tout, mais en fait non, finalement on s'y attend parce que c'est son but, c'est ce qu'il veut, coucher avec elle, et il utilisera la force pour ça. Par contre, Kate va ensuite s'émanciper et il ne reposera jamais les mains sur elle, et c'est elle qui, dans la deuxième partie de la pièce, va prendre le pouvoir sur Ian. Donc l'intrusion du soldat qui a modifié les rapports de force et qui a anéanti Ian va permettre à Kate de s'émanciper. Alors on voit bien donc une partie de la pièce après, donc les actions tuées sur Ian et le soldat, et Kate va partir. À un moment, elle disparaît, elle va chercher notamment à manger, elle va revenir avec un bébé, et puis elle va donner du gin à Ian, et quand elle revient, en fait, il y a une indication scénique qui nous dit: du sang coule entre ses jambes. Voilà, c'est la seule chose qui montre finalement physiquement son émancipation. Mais en fait, dans la version originelle, en 93, on a une explication. Et Kate nous dit: on l'a fait à l'arrière d'une camionnette. Il sentait la cigarette et la sueur. Ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a fait avec sa femme. On l'a fait vite. M'a fait saigner. M'a donné une saucisse, du pain et ça. Elle verse du gin dans la bouche de Ian. Et Kane, va couper tout ce qu'elle considère comme superflu dans la pièce. Alors la pièce originale est trois fois plus longue, mais elle va couper, alors, de la même manière qu'elle coupe les membres de ses personnages, elle coupe son texte, et elle va enlever tout ce qu'elle considère être le sous-texte. Donc on va apprendre par exemple que Stella, qui est en fait l'ex-épouse de Ian, est partie avec une femme. Ça, c'est quelque chose, est partie. Et on sent finalement que Kane, en déconstruisant son texte, elle réussit à le reconstruire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous coupez du texte que vous enlevez du sens. Au contraire, vous créez un nouveau sens, vous recréez du sens autrement. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement dans toutes les zones de non-dit, ces zones un peu sombres, il y a du sens à reconstruire. Soit parce que l'écriture télégraphique va nous donner quelques informations, soit certaines didascalies, la situation physique va nous projeter. On comprend qu'elle a à nouveau, qu'elle a été obligée d'utiliser son corps pour obtenir la nourriture. On le comprend par cette didascalie et par la représentation. On n'a pas besoin du texte qui est autour. Graham Sanders dit notamment, il se peut que la suppression de ces répliques rende plus problématique l'issue de ce qui, à long terme, rattache Kate à Ian. Peut-être la vraie raison de sa suppression fut-elle le début d'une pratique que Kane allait développer dans ses pièces à venir et dans laquelle l'image scénique allait l'emporter sur le langage. Et Kane allait vraiment dans ce travail-là et toutes ces pièces ont été réécrites quasiment jusqu'à sa mort. Les dernières versions publiées ont été modifiées en 98-99. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'avant de mourir, il fallait redonner vraiment finir de décrire ces textes-là. Évidemment, la question de la crise de la représentation, c'est donc s'interroger sur la représentation de Kane. Alors, pour reprendre l'expression d'Henri Gouillet, le théâtre est un art à deux temps, c'est-à-dire le texte puis la scène, et donc il va falloir, toute la question est la transposition de l'un à l'autre, c'est-à-dire du corpus littéraire au corps, notamment physique. Je vous disais donc que c'est un théâtre qui s'appelle In Your Face, dans ta gueule, hein, mot à mot. Donc on ne va pas y aller par quatre chemins, et on va donc montrer tout ce qui est à montrer. Et le théâtre, ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est l'immédiateté de la représentation. Et elle disait, le théâtre n'a pas de mémoire, ce qui fait de lui le plus existentiel tous les arts. C'est sans doute pour ça que je ne cesse d'y retourner, dans l'espoir que, dans une salle obscure, quelqu'un me montrera une image qui pénétrera dans mon esprit en s'embrasant, y laissant une marque plus permanente que ce moment lui-même. Et Kane nous présente finalement un corps qui est en deuil chez lui, dans ses pièces, pardon. C'est un corps qui est maltraité, qui est dépecé, qui est fragmenté, qui est violé, ou encore mangé. Et alors là, on assiste à une scène d'anthropophagie où Ian, qui est en train de mourir, qui a creusé sa tombe littéralement dans le plancher de la chambre d'hôtel. Kate revient avec le bébé et il mange le bébé. Et alors là, bon, évidemment, on se dit, voilà la fin de l'anthropophagie. Mais en fait, il y a un symbole, hein, c'est pas gratuit. C'est que en s'imprégnant physiquement du corps de l'enfant, c'est un moyen finalement de se régénérer et donc de lui apporter une certaine rédemption et de lui permettre de mourir en paix, entre guillemets, hein. C'est pour ça qu'on a ces deux aspects de la mort, d'abord la mort physique et après une mort un peu plus cérébrale. Et je crois que en faisant exploser la scène de théâtre, comme elle le fait dans Anéanti, elle casse la convention du théâtre à l'italienne, hein, finalement, avec ce décor à trois murs, on est en face. Elle nous met plus face à un espace, mais on est complètement plongé dans l'espace. Donc les barrières entre l'aire de jeu et le public ne sont plus clairement définies, et finalement créent un nouveau lieu scénique, c'est-à-dire qu'on fait exploser le lieu scénique du début de la pièce pour ancré à notre. Par exemple, on a une mise en scène qui a été faite où les gradins des spectateurs sont placés de part et d'autre du plateau pour montrer que le spectateur n'est pas extérieur à cette chambre d'hôtel, mais est bien dans l'intimité du couple. Il est plongé dedans et il participe à ceci. Donc on module finalement les rapports scène et salle en interférant sur la relation au public. Le spectateur est sollicité au-delà de la vue, hein. C'est plus le seul sens qui va nous servir vraiment, et on a vraiment l'impression que physiquement ce théâtre nous touche. Alors j'en parlais à François d'un exemple, quand j'ai vu Anéanti représenté devant moi, j'avais un groupe d'adolescents qui au début de la pièce se tenaient très droit sur leur siège, et au fur et à mesure on les voyait s'enfoncer dans leur siège. Au fur et à mesure, on a l'impression qu'ils se repliaient eux-mêmes, un peu comme Ian se replie dans sa tombe sous le plancher. On a l'impression que voilà, ce besoin de se replier, puisque on est attaqué nous aussi de toutes parts par la violence, donc on se protège. Donc on sent physiquement que ça nous touche. Et donc pour revenir sur ce que Kane disait à propos du tâche, je donne ses propres mots. Elle disait, cela a toujours été la forme que j'ai préférée parce que c'est du direct. Il existera toujours au théâtre une relation entre le public et ce qui est montré, qui n'existe pas vraiment avec un film. Je veux dire, avec ce film que j'ai écrit, les gens peuvent quitter la pièce ou zapper ou n'importe quoi d'autre, ça ne change rien à ce qui est présenté. Mais avec Anéanti, quand les gens se levaient et quittaient la salle, ça faisait partie de l'expérience globale de la pièce et c'est ça qui me plaît. Il y a une relation de réciprocité totale entre la pièce et le public. Le théâtre, Kane l'a fréquenté jusqu'au jour de sa mort, en se pendant avec ses lacets de chaussures dans les toilettes d'un hôpital psychiatrique où elle était hospitalisée. Kane, finalement, a mis sa mort en scène. On sent qu'elle a poussé l'expérience théâtrale jusqu'au bout. Pour elle, finalement, quitter le monde a fait partie de l'expérience globale de sa vie. On sent qu'après 448, alors avec des si évidemment on pourrait mettre Paris en bouteille, mais on se demande ce qu'elle aurait pu écrire d'autre. Une fois que vous n'avez plus de personnages, que vous n'avez plus de lieu, que vous n'avez plus de texte construit, qu'est-ce qu'il reste finalement? Son suicide et les cinq pièces qui composent son œuvre. Et je crois que cette scène dans les toilettes d'un hôpital, aussi violente soit-elle, est à mon avis la représentation ultime de la crise de Sarah Kane. Merci beaucoup.